m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début de semaine en compagnie de la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Le processus électoral se poursuit avec la clôture ce dimanche 23 juillet de l'opération de dépôt des candidatures pour la députation nationale. Près de 900 partis et regroupements politiques ont présenté des candidats pour la prochaine Assemblée nationale. Quel pourrait être pour vous le profil idéal des futurs députés nationaux? Nous sommes ensemble pour près de 55 minutes d'échange dans Parole aux auditeurs. Cette émission est mise en onde par Alain Goy. Quant à moi, Pierrot et la Meiji, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs. Bienvenue à vous tous qui êtes branchés sur la fréquence de la paix en ce moment.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Et pour en parler, nous recevons dans ces studios Monsieur Floribert Anzuluni. Bonjour.
Bonjour, cher Pierrot.
Est-ce qu'on peut encore vous présenter? On peut quand même vous présenter, cofondateur de Filimbi, initiateur de la campagne Congo Tulingi. Rappelons quand même qu'on se retrouvait il n'y a pas longtemps pour parler de la campagne Congo Tulingi avant qu'on entre dans les vifs du sujet sur les profils idéaux de nos futurs députés nationaux. Faisons d'abord un point, comme on avait promis aux auditeurs qu'on pourra revenir. Revenons d'abord sur Congo Tulingi, où en sommes-nous?
Merci encore pour l'invitation, cher Pierrot. Non, le niveau d'avancement aujourd'hui de Congo Tulingi est complètement lié à notre sujet d'aujourd'hui. Mm-hmm. Nous avons publié il y a quelques jours finalement le contrat social, donc les résultats de la première phase de ces consultations. Et dans ce contrat social, vous avez là-dedans défini les problèmes prioritaires, les problèmes priorisés, mais également des engagements que nous aimerions voir les futurs dirigeants prendre. Donc ces engagements seront totalement liés, je pense que je vais pouvoir les présenter pendant les discussions, totalement liés au profil finalement de candidats à tous les niveaux, y compris à la députation nationale, que les Congolais aimeraient voir. D'autant plus que l'un des points centraux qui ont été identifiés comme priorité ou comme problème par les populations, c'est un problème de leadership.
Problème de leadership, bon, on voit toute la bagarre au niveau du regroupement parti politique pour déposer, remplir les listes, hein, s'il faudra utiliser ainsi le terme, remplir les listes. Mais il y a beaucoup de partis politiques quand même qui ont fait un filtrage en amont, qui ont demandé aux personnes de pouvoir déposer. Leurs comités internes ont pu étudier les profils des gens pour pouvoir enfin aligner ce qu'on estime répondre aux critères. Mais est-ce que vous pensez que cette opération de filtrage au niveau du parti politique, elle est assez objective quand vous faites l'analyse, parce qu'on voit des fois certains partis dans lesquels les gens se sont fâchés, pourquoi nous on estimait que ça devait être tel, et au niveau de Kinshasa on a décidé que ça soit tel. Comment vous analysez ça par rapport à cette plaidoyer que vous menez d'ailleurs?
Alors, je n'ai pas eu accès au fonctionnement et à la manière dont les différents partis ont mis en œuvre cette procédure. Mais ce qui semble jusqu'à ce jour en fait revenir de manière assez permanente, encore une fois, c'est que la qualité des animateurs et des acteurs ne correspond pas suffisamment, je dirais, à ce que les Congolais attendent. Et donc nous espérons que ce processus à venir va être plus qualitatif en réalité que les processus précédents.
Alors, vous avez dit on a suffisamment avancé avec Congo Tulingi, le contrat social. Est-ce que vous pensez que il y a suffisamment de compréhension au niveau des électeurs sur les contenus du contrat social et la qualité des personnes qui leur seront présentées dès qu'on aura les listes définitives des candidats.
C'est un très bon point. Comme vous le savez, la première partie des consultations consistait donc à consulter les Congolais. Nous avons organisé plus de 200 rencontres citoyennes. Nous avons formé plus de 1300 points focaux à travers le pays. Nous avons organisé des consultations également à la diaspora. Et donc, la première phase, c'était de faire en sorte que les Congolais s'expriment pour arriver à ce contrat. Maintenant, il y a une phase d'appropriation. Vous avez raison. Nous avons maintenant besoin que les Congolais, la majorité des Congolais, comprennent le contenu de ce contrat social et surtout adhèrent et s'approprient en réalité les engagements qui sont dans ce contrat social. Et ça, c'est le travail que nous allons commencer dès maintenant. Donc, pour répondre à la question de manière plus brève, non, nous ne sommes pas convaincus encore aujourd'hui que la grande majorité des Congolais comprennent cela. Et le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les futurs électeurs ne soient plus élus parce qu'ils ont donné un t-shirt, j'insiste, ce point est très important, parce qu'ils ont donné du sel, parce qu'ils ont donné quelques milliers de francs, mais qu'ils soient élus sur base d'engagement clair, d'abord de profil, extrêmement important, et puis d'engagement clair que ces derniers doivent prendre. Vous savez, vous avez des engagements assez intéressants ici. L'un des engagements qui est revenu est de dire que chaque candidat doit être capable de déclarer clairement son patrimoine avant la campagne électorale officiellement, et ça, ça n'a rien à voir avec la loi. Et deuxièmement, de faire une déclaration annuelle symboliquement pour que nous, les citoyens, pour que les électeurs puissent justement s'assurer que le candidat respecte les règles en termes de, les normes en termes de corruption. Un autre engagement était de dire que un candidat à un certain niveau, disons à la députation nationale ou provinciale, devrait être capable d'avoir au minimum une permanence au niveau de sa circonscription pour pouvoir garder le contact avec ses citoyens. Au cas contraire, une fois que le candidat est élu, il n'y a plus de contact, ils viennent à Kinshasa et ensuite finalement il n'y a plus de redevabilité. Il y a des engagements assez intéressants, mais pour cela il faut que les Congolais s'approprient ce contrat pour que nous l'imposions tous ensemble à tous ceux qui veulent nous diriger dans les mois à venir.
Est-ce que ça sera aussi possible, dès que ce document final sera élaboré, de le partager aussi avec le responsable politique, ou soit les déposer au niveau des partis politiques pour qu'ils se rendent aussi compte de ce que la population exprime?
Tout à fait. La première étape d'ailleurs a été, on a fait une conférence de presse il y a quelques jours pour le rendre certains éléments du contenu public. Nous avons également finalement remis ça symboliquement à la disposition de la population d'abord. Nous avons organisé à Massina, au stade municipal, il y a un peu plus d'une semaine, une activité citoyenne où nous avons fait venir inviter des milliers de Congolais pour leur présenter les résultats de ce contrat. Et aujourd'hui même, nous allons rendre public ce contrat social à tous les Congolais, bien évidemment. Et bien évidemment, nous enverrons des copies à tous les responsables publics et à ceux qui veulent lancer maintenant une campagne pour que tous ceux qui veulent nous diriger demain, très important, puissent y adhérer.
Voilà, on va écouter les auditeurs de Radio Capi qui se sont exprimés autour du portrait idéal de leurs futurs députés nationaux, en partant de ce qu'ils ont comme expérience. Je crois que nous avons Dunia Kassindi qui est à Bukavu. Merci de nous avoir rejoint. Dunia, bonjour, on vous écoute.
Bonjour. Concernant le sujet, tout d'abord, il est primordial d'évaluer les compétences et l'expérience du candidat. Un dirigeant doit posséder des compétences spécifiques liées à son domaine d'activité, ainsi qu'une expérience solide dans des postes à responsabilité. Il est essentiel de vérifier si les réalisations passées du candidat correspondent aux besoins et aux objectifs de l'organisation. Ensuite, il est important de considérer les qualités humaines et le leadership du candidat. Un dirigeant efficace doit être capable de mobiliser et de motiver les équipes. Il doit également être doté de qualités telles que l'intégrité, l'empathie et la capacité de prendre des décisions réfléchies et éthiques. Par ailleurs, le candidat doit démontrer sa vision et sa capacité à anticiper des évolutions du marché et de l'environnement dans lequel l'organisation évolue. Il est essentiel qu'il puisse élaborer une stratégie claire et cohérente pour atteindre les objectifs fixés. Il est également recommandé de réaliser une évaluation approfondie de la personnalité du candidat. Cela peut se faire à travers des entretiens, des tests, des personnalités ou encore des références professionnelles. Il est essentiel de s'assurer que le candidat partage des valeurs de l'organisation et est en mesure de s'adapter aux différentes situations. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dounia. Je retiens compétences, connaissances, expérience, intégrité, respect des valeurs. Voilà pour vous le portrait hein, idéal de la personne qui devrait être élue prochainement. Franck, vous êtes à Vienne. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour Franck, on vous écoute.
Nos cordiales salutations à vous tous au studio, à tous les fidèles auditeurs de la radio Capi et aussi à votre invité. Merci beaucoup pour cette question ouverte relative au profil des candidats qui doivent compétir à la course électorale à des niveaux assez variés. Un député, celui que nous appelons au quotidien un élu du peuple, c'est en principe le porte-parole du peuple là où il n'est pas possible de faire parler tout le monde au même moment. Chaque député est en réalité l'émanation des aspirations et préoccupations d'un peuple qui se sait appartenir à un État qui fonctionne moyennant l'existence des différents pouvoirs. Et partout où il y a vraiment de l'organisation digne de nom, un député ne peut être que celui qui se montre déjà apte à défendre les divers soucis et préoccupations, aussi tous les autres projets relatifs au bon fonctionnement de son pays. Ainsi, il ne peut être qu'un homme lucide et mûr, un homme équilibré et instruit, donc cet homme capable de comprendre où se trouvent les préoccupations les plus essentielles pour ses électeurs dans la mesure où il est appelé à voter pour des lois, à le proposer et aussi à contrôler certaines initiatives de l'exécutif pour leur bonne marche. Ainsi, sur base de cet aspect, il est choisi par ses électeurs pour aller les défendre au niveau des assemblées plénières. Par ailleurs, dans notre pays depuis quelques décennies, ce n'est pas le profil qui prime pour nos députés, mais seulement leurs appartenances et affinités politiciennes avec certains chefs de partis et regroupements politiques. Ainsi, au lieu d'être le vrai porte-parole de leurs électeurs en se mettant réellement à leur place, nous savons depuis 2006 de quoi et constituer les profils de certains députés. Avec espoir que nos compatriotes congolais ne vont plus se laisser distraire en 2023, car nous sommes tous témoins de ce que nous vivons avec ces députés que nous envoyons au Parlement. Donc cette fois-ci, il faut que le peuple se montre prudent, parce qu'un peuple ne peut être défendu que par ces députés que lui-même envoie au Parlement. Alors, au lieu de se mettre à nous plaindre après, c'est maintenant l'occasion de savoir à qui on peut donner ces mandats-là, à qui on peut faire confiance. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Franck. Vous avez parlé de l'aptitude à défendre les intérêts. Il doit être équilibré, préoccupation de la population. Au lieu de pouvoir se plaindre après, c'est en ce moment que les gens devraient savoir quel type de personnes il faudra envoyer dans les assemblées législatives plutôt que les personnes selon les affinités politiques. Merci beaucoup. Nous avons Bienheureux Pascal qui est à Lubumbashi. Bonjour et merci de nous avoir rejoints.
Merci de m'avoir associé à cet échange citoyen. Nous pouvons bel et bien proposer des profils idéaux que doivent incarner les députés qui seront élus bientôt. Mais j'estime aussi qu'il doit y avoir une volonté manifeste de la part du gouvernement à réaliser certaines propositions qui sont l'œuvre du travail abattu par le pouvoir législatif. De nos jours, certains politiques se cherchent des postes au sein du gouvernement ou au sein du Parlement pour couvrir les crimes qu'ils ont eu à commettre dans le passé. Une fois élus au Parlement, et par manque du souci à pouvoir servir la nation, ces derniers se livrent à des actes de corruption et parfois ils travaillent pour le compte de leur famille politique. En ce qui concerne le profil à proposer, j'estime que la constitution de notre pays est très claire quant à ce. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité d'un candidat, on nous dit qu'il doit seulement être de nationalité congolaise, avoir au moins 25 ans d'âge et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. À cela, nous pouvons ajouter aussi le code de bonne conduite d'un agent public de l'État. Un autre aspect aussi très important, par manque de la vulgarisation de certaines lois du pays, certains députés ou certains candidats veulent jouer au petit malin en allant rencontrer la population avec un discours qui est purement anticonstitutionnel. Un député qui dit aux gens que je vais construire des routes, je vais construire des écoles, je vais. Pendant que les gens ne savent pas que cela n'est pas dans la compétence d'un député. Un député n'a pas un autre rôle que de parler et de défendre sa circonscription électorale.
Merci beaucoup. On va terminer avec vous, François Okundu. Vous êtes à Chicapa et puis on va revenir à notre invité pour placer un mot sur ce profil, disons, détaillé par nos auditeurs. François, merci d'être avec nous. Bonjour. On vous écoute.
Il est beau. Les futurs candidats doivent être les hommes de terrain, les hommes qui maîtrisent bien leurs fiefs électoraux, les hommes qui maîtrisent les désirs de la population, et non les opportunistes, et non les organisistes, et non les stagiaires au sein de l'arsenal politique et juridique. Nous avons besoin d'une jeunesse, nous avons besoin des candidats maîtrisant les besoins de la population, les désirs de la population. Les hommes qui ne viennent pas prendre l'administration, la politique au sein de l'Assemblée nationale ou au sein de l'Assemblée provinciale ou au gouvernorat des provinces, non. Nous avons besoin de professionnels, des gens qui ont une expérience, des gens qui ont fait de bonnes études, des gens qui s'en soucient pour le bien-être des autres avant toute chose. Voilà les profils que nous voulons pour la future Assemblée nationale et les assemblées provinciales à venir, voire même de gouvernements provinciaux. Voilà.
Merci beaucoup, François. Alors, on revient à vous, Monsieur Floribert Anzouloni. Vous avez suivi, quand on écoute les auditeurs, ça dit que les gens expriment réellement ce qu'ils voudraient voir comme incarnation de personnes qui devraient le représenter demain. Et ça, c'est assez intéressant, pourvu que la plupart des candidats écoutent aussi cette émission.
Tout à fait, c'est assez intéressant. Hein. Je partage personnellement la grande majorité des éléments qui ont été soulevés. Je pense que, pour ma part, il y a peut-être un souci aujourd'hui, c'est que la politique, normalement, au sens original du terme, à l'origine, c'est un sacrifice, c'est un engagement. C'est l'engagement, une personne qui décide d'aller en politique, décide de s'engager pour travailler au bénéfice du bien commun, pour travailler pour que la majorité des personnes que cette personne devrait représenter puisse bénéficier de ce qui nous appartient à tous. Malheureusement, dans notre pays, et ailleurs, et dans d'autres pays également, c'est la même chose, c'est que nous avons fait de la politique un métier, un endroit où les uns et les autres vont chercher non seulement de quoi vivre, mais pire encore, vont s'enrichir à l'extrême, sans aucune limite, et malheureusement au détriment des autres Congolais. Donc l'une des premières choses, je pense, que nous devrions exiger, et beaucoup l'ont dit pendant ces consultations à nos candidats, ce sont des valeurs. Est-ce que nos candidats ont suffisamment de valeurs? Et l'une des premières valeurs, ça c'est en ce qui me concerne personnellement, c'est l'amour du pays, l'amour de la patrie. L'autre valeur qui est liée, c'est l'amour de l'autre, l'amour du prochain, l'amour de son compatriote. Tant que nous n'avons pas cet amour-là, il sera difficile, même quand on a de l'expertise, de l'expérience, il sera difficile de servir pour le bien commun. Et nous, en tant que citoyens, nous avons une responsabilité énorme, importante, parce que là, nous mettons le point uniquement sur les critères. Mais nous, en tant que citoyens, devons comprendre également le rôle des acteurs à tous les niveaux pour que lorsqu'ils viennent vers nous, nous puissions avoir les éléments d'évaluation appropriés, avant de faire notre choix. Je reviendrai là-dessus, mais ça, c'est également un élément central. Nous élisons sans connaître le rôle de nos acteurs et en conséquence, nous n'avons pas les bons éléments d'analyse pour effectuer nos choix. Et ensuite, nous rendons compte que nous nous sommes trompés. C'est comme ça que nous pensons qu'un député doit construire des ponts, alors que le rôle d'un député n'est pas de construire des ponts. Le rôle d'un député est d'aller voter des lois qui vont améliorer nos conditions. Le rôle d'un député est d'aller contrôler ce qu'on appelle le pouvoir exécutif.
le gouvernement, que ce soit au niveau national ou provincial, mm-hmm. pour que ce gouvernement mette en œuvre des politiques qui vont nous bénéficier à tous. Mais nous attendons que les députés viennent construire des ponts sans nous poser la question de savoir d'où vient cet argent finalement qui construit ces ponts.
Et la construction des ponts devient maintenant un appât pour pouvoir obtenir l'électorat.
Mais bien sûr, c'est même plus grave qu'un appât, je pense avoir dit déjà plusieurs fois précédemment. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui j'investis 100 000 dollars dans ma campagne, mais posez-vous la question de savoir d'où vient cet argent. Ça devient déjà un investissement. Mm-hmm. Mais une fois que je l'ai investi, je vous ai construit un pont, je vous ai donné quelques t-shirts, je vous ai donné quelques savons. Mais la suite c'est quoi? Je dois récupérer mon investissement avec un bénéfice suffisamment conséquent. Et donc, dans ma compréhension à moi, je vous ai déjà donné votre part. C'est ce que nous devons comprendre en tant que citoyens. Donc, nous devons connaître le rôle de chaque acteur à chaque niveau pour que le choix que nous effectuons puisse être basé non pas sur justement ce que les uns et les autres donnent, mais bien évidemment sur leur capacité à répondre à nos besoins, à résoudre nos problèmes à notre niveau, au niveau auquel ils sont en train de vouloir occuper des fonctions publiques.
Voilà, nous avons Emile Amanda qui nous a appelé de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Emile, merci de nous avoir rejoint dans cette émission. Bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour à toute l'équipe qui concourt à la production et à la réalisation de ces nouveaux numéros de Parole aux auditeurs. Bonjour aux compatriotes qui se sont exprimés et qui vont s'exprimer après nous, ainsi qu'aux fidèles auditeurs et auditrices de la radio Okapi. Nous commençons par féliciter la CENI qui marque sa bravoure afin d'organiser ce scrutin plus attendu par tous les Congolais, quelle que soit le menace, entrave, obstacle et turbulence qu'elle raconte à mi-chemin pour tenir ces élections, et nous la consolidons et soutenons jusqu'au dernier jour de publication des résultats. Vous savez, Monsieur Pierrot, avant de donner mon point de vue sur le profil idéal d'un député, laissez-moi signaler ici une chose, c'est que les faibles cachent leurs faiblesses en se plaignant. Les irrégularités, la non-crédibilité, le manque d'inclusivité rapproché à la CENI n'a pas son pesant d'or avant la publication des résultats ou après que cette CENI n'a pas encore montré des particularités de lenteur d'une manière ou d'une autre pour l'organisation de ce cycle électoral en cours. Le LGD du sénateur Matata Ponyo Mapo ne lâchera rien et ne craint rien. Comme le déclare souvent son président fédéral ici au Sud Kivu, Nicolas Kialangalilo, j'ai confiance à l'avenir, on ne lâchera rien. Un bon député est celui qui, avant de l'être, montre l'amour au peuple, plein pour lui, et protège son intérêt supérieur comme le bien-être de cette population, la justice sociale pour cette population, son sacrifice pour cette population. Nous disons à la centrale électorale de ne plus céder aux caprices des politiciens congolais.
Merci beaucoup.
Car leur inquiétude.
Voilà, merci beaucoup, Emina. Bon, on aura peut-être une émission spéciale demain, c'est possible, avec le président de la CENI pour effectivement évoquer toutes les grandes questions qui des préoccupations aujourd'hui majeures. Mais alors, pour revenir sur les profils, vous avez dit, il faut quelqu'un qui a d'abord l'amour du peuple, qui se soucie du bien-être et de la justice sociale. Voilà. Le reste, on aura un débat autour des inquiétudes des uns et des autres. Merci beaucoup, Emina. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense que nous saluons, certes, et les dépôts, n'est-ce pas, des candidatures pour la députation nationale, parce que vous savez, c'est un exercice démocratique auquel tout le monde s'attend bel et bien à affronter, parce que vous savez, dans chaque état major, on affûte les armes, question de pouvoir être prêt à ces grands rendez-vous. Maintenant, la grande question est celle de se demander qui doit réellement être élu, parce qu'il faut que la population intériorise ça, parce que vous savez, là, nous commençons à comprendre les choses de manière autrement, hein, parce que la population congolaise commence de plus en plus à être mature. Vous savez, nous allons vers le quatrième cycle électoral, ce qui veut dire que la population, le peuple congolais n'est plus celui, hein, qu'on a connu il y a longtemps, parce que et le peuple congolais, je pense que chacun, quand vous suivez même certaines déclarations, vous allez entendre que chacun a son bic rouge pour pouvoir, donc c'est-à-dire réactualiser son papier pour voir qui doit être élu, parce que on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous leurrer cette fois-ci, parce que vous savez, la population congolaise a eu à expérimenter, par exemple, beaucoup de cycles qu'on a eu à connaître au niveau de la députation nationale. Et il vous souviendra que à chaque moment, on essaie d'évaluer comment est-ce que les choses se sont coordonnées. Vous savez, quelles sont les matières qui ont été traitées. Vous allez voir qu'il y a certains députés qui vont dans l'hémicycle, ne fût-ce que pour somnoler et ne pas participer activement aux actions auxquelles le peuple congolais attend. Alors, c'est ça le problème. Est-ce que la population doit se poser la question, qui sont rentrés dans leur base? Et qui ont fait quoi pour cette population? Quels sont les gestes de grande envergure qu'ils ont eu à poser pour qu'ils bénéficient, n'est-ce pas, de la confiance de cette population? C'est ça la grande question. Et il vous souviendra que les députés nationaux ont la grande mission, c'est-à-dire de contrôler l'exécutif. Est-ce que cela a été fait de manière efficiente? Elle a la lourde mission. Et l'hémicycle plutôt a la lourde mission de pouvoir contrôler toutes les actions qui se passent dans les entreprises, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'éclat pour qu'ils puissent bénéficier de la confiance de la population? Je pense que il y en a qui ont très bien travaillé, il y en a qui ont été moyens, il y en a qui ont été médiocres. C'est à la population congolaise de pouvoir étudier ce problème. Et alors, le profil, hein, pour le moment, un député national doit d'abord avoir l'esprit du patriotisme en lui. Il doit tout le temps descendre à la base, il doit présenter à tout moment les rapports de sa circonscription électorale pour que le peuple congolais se rende compte de comment les choses se déroulent sur le terrain. Il y a eu des problèmes des 145 territoires. Est-ce que les députés sont descendus sur le terrain pour contrôler? Et qu'est-ce qu'ils ont, après avoir étudié les avis des gens, qu'est-ce qu'ils ont amené au niveau du gouvernement central pour être exécutés? Alors, tout ça, ce sont des questions auxquelles on doit se poser. On ne veut pas cette fois-ci des députés de figuration. On veut des gens qui doivent travailler avec la population, les gens qui doivent travailler pour la population, les gens qui doivent travailler pour l'intérêt général de leur pays. Merci beaucoup, Monsieur Pierrot.
Merci beaucoup, Jérémy. Vous avez souhaité voir les futurs ne puissent pas faire comme ceux de législatures passées, mais il reste encore une session, je crois que c'est celle du mois de septembre, on pourra voir, parce que vous avez souhaité, c'est la deuxième fois que vous souhaitez que les députés s'intéressent au programme du 145 territoires dans leur milieu, pour pouvoir évaluer ce qui a été fait. Alors on verra lors de la prochaine session si parmi les rapports des vacances parlementaires, ça va être figuré, mais rappelons quand même que ces vacances parlementaires se déroulent avec les dépôts des candidatures qui s'apparentent à la pré-campagne, ça c'est aussi compliqué, on pourra voir comment ça va se présenter au mois de septembre. Merci beaucoup, Jérémy. Bienvenue. Vous êtes à Kikwit. Bonjour. On vous écoute.
Bonjour, Radio Okapi. En ce qui concerne le profil idéal pour les futurs députés que nous aurons à élire, moi, je crois, en premier lieu, nous devons chercher des personnes, malheureusement, que l'honnêteté ou l'intégralité des personnes ne pouvait pas les voir à l'œil nu. Ce sont des qualités ou des caractères intrinsèque de la personne elle-même. Parce que ces deux éléments combinés à la constance politique, je crois nous pourrons avoir des bons représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Qu'il y a des gens aujourd'hui, il est dans tel ou tel autre parti politique. Quand il part là-bas, à force de l'argent, il peut facilement changer les camps. En changeant les camps, il ne tient même pas compte de la population qu'il a élue. Nous, nous sommes à l'intérieur du pays, nous voyons même les députés qui ont été élus, toute une mandature. Ils ne reviennent pas au niveau de leur base. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils présentent comme rapport de mission, parce que nous savons, en chaque vacances, les députés doivent rentrer au niveau de leur base pour collecter les doléances de la population et présenter au niveau de l'Assemblée nationale. C'est à partir de ces moments-là, parce que lorsqu'ils ne viennent pas, peut-être ils sont tentés de tripatrier les rapports qu'ils présentent à ce niveau-là. Ils ne connaissent pas véritablement les vrais besoins de la population. Donc nous avons besoin de personnes honnêtes, intégrées et qui ont vécu ensemble avec la population. Parce que les gens qui ont vécu ensemble avec la population savent quand même quels sont les grands maux qui rongent la population dans laquelle ils viennent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bienvenue d'Equiquit. Nous revenons à vous, Monsieur Floribert Anzoulouni. Quand on écoute les auditeurs, ça dit qu'il y a ce souci que les choses puissent changer, qu'ils aient des personnes vraiment qui les représentent valablement. Mais j'ai lisé Barack Obama dans son livre « Audace d'espérer ». Il dit « Les gens n'aiment pas les parlements, mais ils aiment l'ère parlementaire ». Ça dit que dans la logique, on critique l'action parlementaire, ces parlements, ils sont mauvais. Mais quand ils rentrent, c'est la personne qu'on acclame. Et puis, on va reconduire la même personne. Mais dans l'imaginaire, on ne veut pas du parlement, il fait mauvais travail. Mais on est attaché à son parlementaire. Comment ces paradigmes peut-il arriver à changer?
Oui, effectivement, je pense que c'est encore une fois l'état dans lequel, nous devons le reconnaître, se trouve notre société. Je vais paraphraser un aîné qui, j'espère, va m'écouter, qui dit toujours que notre société fait face à un problème, à une situation dans laquelle l'avoir et l'être ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer dans une société normale. L'avoir, c'est tout ce que finalement nous avons, les biens matériels et autres. Et l'être, c'est chacun d'entre nous. Malheureusement, dans notre société, l'avoir a pris le dessus sur l'être. Et au final, aujourd'hui, l'être est utilisé pour accéder à l'avoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui en politique.
Oui.
On utilise les populations, et c'est ce qui justifie ce que vous dites là, on utilise les populations pour atteindre une responsabilité qui permet de s'enrichir, et finalement au sacrifice de ces populations, alors que l'avoir devrait servir à aider l'être humain, finalement, à vivre décemment. Donc, ça, c'est une situation. Mais moi, je reviens à un point extrêmement important, c'est que nous sommes en train de parler des critères, mais je pense qu'il faut rajouter à cela le niveau d'engagement que chaque citoyen devrait avoir. Mm-hmm. Parce que même si nous élaborons aujourd'hui des critères et que des personnes aujourd'hui sont identifiées et semblent respecter ces critères-là, nous restons des êtres humains. S'il n'y a pas un mécanisme de contrôle citoyen, de suivi, un mécanisme qui impose à ces personnes une certaine redevabilité, je vous assure qu'il ne se passera rien, il n'y aura aucun changement. Vous l'avez dit aujourd'hui, vous venez de le dire tout de suite, Pierrot, c'est que les mêmes personnes qui critiquent les institutions adulent et acclament les individus qui représentent ces institutions. Ça vous montre à quel point il y a un décalage entre ce que nous voulons et en réalité notre compréhension du fait que nous devons nous-mêmes être rigoureux, exigeants, et contrôler ces personnes, leur mettre la pression de manière permanente, c'est ce qui nous a valu, nous, en tant que mouvement citoyen, oui, d'ailleurs, beaucoup de problèmes, pour que ces gens réalisent et fassent, oui, agissent comme ils devraient le faire au bénéfice de la majorité. Donc oui, les critères, mais nous devons, nous-mêmes, vraiment, très sincèrement, nous-mêmes, en tant que citoyens, être très engagés, suivre de manière permanente. C'est comme ça que les engagements qui sont dans ce contrat social sont parfois très intéressants. Exiger qu'une personne déclare ses biens, c'est un moyen de suivi. Exiger qu'un élu ait une permanence dans son lieu, dans sa circonscription, est un moyen de suivi et de redevabilité. Exiger qu'un élu puisse s'engager à lutter contre la corruption est un engagement. Ensuite, une fois qu'on a ces exigences-là, et c'est d'ailleurs la troisième phase de cette campagne Congo Tulingi en réalité, il faudra mettre donc des mécanismes citoyens de suivi, de contrôle qui nous permettront de nous assurer que ces personnes respectent leurs engagements et puis qu'il y a une redevabilité. C'est le plus important au-delà des critères.
Voilà. Alors, il y a Sylvain qui est à Kisangani. Merci, Sylvain, d'être avec nous dans cette émission. Quel est votre point de vue, Sylvain? Bonjour.
Oui, je pense que un bon arbre est reconnu par ses fruits. Et je crois que le profil d'un très beau député, candidat député, c'est un homme honnête, loyal et compétent. Et cet homme-là sera découvert par le fait qu'il a brigué certains mandats préalables ou et assumé certaines fonctions, et dans ses services, il a laissé des traces. Et que cet homme soit aussi bien connu et aimé par sa population. Moi, je pense que c'est cet homme-là vraiment qui mérite la confiance du peuple, et qui a l'esprit de serviabilité, qui a l'esprit d'amour de la patrie. Et c'est cet homme qui mérite la confiance pour servir la nation. C'est Sylvain Ingé depuis Kisangani.
Merci beaucoup Sylvain. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. On vous écoute, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité. Bonjour à la Radio Okapi et à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Pierrot, sans blague, ce sujet n'est pas une blague. Ce sujet relance les débats sur les missions de folie à un député, à un élu du peuple, à un représentant du peuple, qu'il soit sénateur, qu'il soit député provincial ou national, quelles sont les missions dévolues à ces genres de personnes, autrement appelées les élus du peuple. Je pense que c'est là où on devait d'abord se situer avant d'établir les critériums d'un bon député ou d'un bon représentant du peuple. Nous avons assisté à des gens qui étaient à l'Assemblée, à la plénière, juste pour soulever la main, noter la présence tout simplement. Mais je voudrais ici citer un exemple. Je n'ai aucun lien de famille avec lui, mais le fait Harry Thomas Lokondo. La conviction, la loyauté, l'intérêt général, la compétence, la qualité dans la proposition ou dans les propositions de loi, la qualité des interventions, la compétence scientifique, les valeurs cardinales, spirituelles, divines, l'éthique, la morale. Je pense que ces éléments peuvent nous aider ou peuvent nous orienter dans les choix ou dans notre décision de faire un choix, d'opérer un choix sur qui peut devenir représentant du peuple. Au-delà d'être, d'avoir l'argent, ce qui est peut-être secondaire, ce qui est subsidiaire, aujourd'hui, il faut d'abord s'interroger si cette personne a des compétences scientifiques ou intellectuelles d'abord. Ça, c'est de un. Parce que tu ne peux pas participer au concours, j'allais dire, à la plénière, au débat, lorsque tu n'es pas préalablement compétent sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique. D'aider, cette personne a-t-elle les valeurs cardinales, les valeurs spirituelles, les valeurs divines? Non, au-delà de la compétence, il faut y ajouter également des valeurs spirituelles. Mais des valeurs spirituelles et la compétence ne suffisent pas aussi. Il faudrait également être loyal envers la population qui vous a envoyé au niveau du plénière ou de la plénière. Non, la loyauté, la compétence et également les valeurs, prôner les valeurs spirituelles, je pense que c'est en quelque sorte les valeurs qui peuvent ou qui peuvent caractériser un représentant du peuple.
Merci beaucoup, Maître Patrick. Vous avez beaucoup insisté sur la compétence, l'expérience, les valeurs cardinales, les valeurs spirituelles, loyauté envers sa population. Et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup reviennent et se plaignent de ces élus qui coupent les relations avec la base, qui ne rentrent presque pas pour les vacances parlementaires, mais alors qu'ils ont le droit des redevabilités. Et il y en a qui reviennent uniquement pour soit se faire enrôler ou déposer leur candidature. Et ça, ça pose problème. Merci beaucoup, Maître Patrick Ekalokaloji. Vous êtes en Bujimaï. On va vous écouter aussi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour aux auditeurs de la radio. Car je pense qu'aujourd'hui, lundi, je pense que c'est la fin et la clôture des dépôts des candidatures au niveau de la députation nationale. Mais je me dis, si nous pouvons parler quand même des profils, les profils ici, nous voulons voir quand même des gens qui seront élus effectivement, qui ont cette capacité-là vraiment de connaître et de faire leur travail convenablement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent être députés, mais en soi, les gens-là n'ont pas une notion sur ce que doit être un député, ce que doit faire un député. Vous savez, ce qui préoccupe nos politiciens, c'est seulement l'appartenance politique, les oui ou non, c'est-à-dire les dictats. Ici, comme je suis dans tel camp, ici, comme je suis dans l'autre camp, je dois satisfaire mon camp, là, quel que soit tout ce qui se passe. Alors, nous ne voulons pas voir encore les mêmes histoires se répéter. C'est-à-dire, ici, quand il y a des choses, on doit travailler normalement. Maintenant, Monsieur Pierrot, Il y a une chose, j'ai vu ici les gens dans des partis pour tout le regroupement, on est en train de chercher les gens pour postuler, pour avoir seulement le maximum, ce qu'on a de m'exiger. Est-ce que réellement nous connaissons ce que nous faisons? Quelqu'un qui est chez lui là, vous les ramassez comme ça et vous les récupérez pour postuler. Moi je me dis, est-ce que réellement nos partis politiques ont même des gens, ont même les adhérents? En tout cas moi je me dis, nous ne pouvons pas attendre à quelque chose, parce que vu seulement ce que je vis ici au Gassa Oriental, certains regroupements que je ne peux même pas citer, en train de recruter les gens pour postuler. En tout cas c'est une honte d'abord, et avec un tel monsieur, s'il sera élu par exemple, moi je ne vois pas, c'est un monsieur qui est parti uniquement que pour être payé, parce qu'on paye autant. Alors moi je me dis, pour le moment, espérons quand même, parce que je sais que notre population a encore un défaut, parce que la population ne vote même pas par rapport d'abord aux critères, d'abord par rapport à la personne. Aujourd'hui les gens que votent par rapport, par exemple, aux moyens des gens, par rapport peut-être aux partis politiques. Il y a des gens qui votent seulement les partis politiques. C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas celui que je vote ici, c'est qui. En tout cas, moi, je me dis, en tout cas, on doit revoir certaines choses. En tout cas, nous n'avons pas la chance. Voyons d'abord ce qui va se passer d'ici là, en décembre, si réellement on aura des députés capables de travailler comme les gens que nous avons connus. Parce que nous connaissons, même actuellement là, nous avons des députés qui peuvent quand même mettre des avis, qui peuvent quand même faire des choses. Vous sentez que c'est un député outillé, capable de créer quelque chose. Mais pas avoir un député somnolent là, un député qui est là seulement quand on dit qu'ils sont pour et qu'ils sont contre, qu'ils s'abstiennent. Alors là, le monsieur se réveille. Mais nous avons besoin de députés, que ce soit au niveau national, au niveau provincial, les gens capables, qui connaissent quand même les mécanismes parlementaires, ce qu'il doit avoir, voir ce que doit faire un député normalement. Merci. C'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, Kalo. Vous dites qu'il y a deux responsabilités, hein. Déjà au niveau de regroupement parti politique où on est en train de recruter les candidats, mais la population elle-même aussi qui a le devoir de faire les choix. Alors, monsieur Floribert Anzoulouni, ici, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un piège quand on demande aux élus qui doivent garder contact avec leur base, qui doivent rester en contact avec ceux qu'ils ont élus. Et quand vous regardez aussi dans l'imaginaire populaire, les gens se réjouissent de ces élus qui sont aussi trop plongés dans les actions sociales. On n'interdit pas la philanthropie, mais cela aussi est un piège dans lequel on se retrouvait aujourd'hui, hein, quand on a un élu qui tout le temps il donne les médicaments, qui tout le temps il paye des cendres pour aider une école. Et on estime que c'est la personne qui aime sa population. Et c'est ça aussi les pièges dans lesquels on s'enferme. Comment on peut faire la différence entre garder contact avec sa base en termes d'informations, récolter des données, faire des plaidoyers, et ne pas tomber dans les pièges de la philanthropie aujourd'hui, qui en principe devient aussi la voie par laquelle pouvoir se faire élire.
Effectivement, Pierrot, c'est assez complexe. Mais en réalité, vous savez, lorsque on parle de philanthropie, mais je pense que une personne qui construit un pont dans un cadre électoral, de mon point de vue, il est clair que l'objectif est électoral. Au-delà de la philanthropie, c'est électoral. Donc, je pense que l'une des choses, j'ai entendu l'un des intervenants parler du parcours. Je pense que nous ne nous focalisons pas suffisamment sur cela lorsque nous devons faire notre choix. Lorsque nous devons choisir désigner ou identifier la personne que nous allons élire, analysons le parcours de cette personne. Quand vous analysez le parcours de Pierrot, vous voyez un petit peu, vous avez une idée de ce que Pierrot pourrait faire demain. Mais malheureusement, dans notre pays, nous ne prenons pas le temps d'analyser ce parcours-là et nous nous focalisons sur ce que vous êtes en train de dire, la capacité de cette personne à faire des dons et à donner des choses gratuitement, alors que finalement ce n'est pas gratuit. D'où je reviens à mon point précédent, Pierrot. Les citoyens doivent connaître le fonctionnement de l'État et le rôle de chaque responsable politique et public. Lorsque vous savez qu'un député a tel rôle et que celui-là est en train de jouer un rôle qui n'est pas le sien, dans votre choix, lorsque vous devrez faire le choix, vous ne vous focaliserez pas sur ce qu'il a fait et qui n'est pas lié à son rôle. Vous vous focaliserez sur sa capacité à jouer le rôle qui est le sien et à répondre aux problèmes que nous, Congolais, avons sur base de son rôle. Donc, c'est vraiment une éducation, et ça, c'est encore une partie importante de la seconde phase de notre campagne Congo Tolingui. Cette éducation citoyenne et civique,
pour que les Congolais, les citoyens comprennent le rôle de chaque acteur politique qu'on va, nous allons élire à chaque niveau, et que dans le choix, on analyse le parcours d'une personne, clairement, sur base du rôle qu'il a à jouer, et que toute la partie philanthropie, qui n'est pas interdite, hein, parce que la philanthropie, en tout cas, est une chose positive, mais que cette partie-là soit vraiment marginale lorsqu'une personne, lorsqu'un citoyen doit faire un choix.
Voilà. On va écouter les deux derniers auditeurs. Laurent Mignon est à Kananga et Amos est à Bukavu. Merci de nous avoir rejoints. Laurent Mignon, bonjour, on vous écoute.
Je pense que la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne thématique. Quels sont les profils pour les députés nationaux et provinciaux à élire? Je pense que les profils sont énormes. Nous ne pouvons pas élire de députés injustes. Nous ne pouvons pas élire les députés tribalistes. Nous ne pouvons pas élire les députés qui ne privilégient pas l'essence de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains députés qui sont à l'hémicycle là-bas. Ils ne connaissent pas que la population, malgré que dans leurs attributions, ils ne sont pas censés créer les routes, ils ne sont pas censés faire quoi que ce soit. Mais, par le sens de l'humanité, ils sont obligés aussi d'intervenir. Parce que, comme ici à Kananga, il y a certaines personnes qui ont été victimes des inondations. Mais, nous n'avons pas vu un député national ou provincial venir en aide à ces familles-là. Donc, je pense que la population a une grande responsabilité d'élire des bons députés, des bons leaders, de députés rassembleurs, de députés démocrates. Mais, chère population, ne lisons pas les députés si bas des critères ethnico-tribaux. Hein? Ne lisons pas les députés si bas de certains critères tribaux, ethniques, non. Et lisons les députés si bas des critères de méritocratie. Un député qui vient, il vous présente un discours et vous l'approuvez et vous lui votez. Ne votez pas les députés si bas de l'argent, si bas de t-shirt, si bas de n'importe quoi que ce soit. Parce que quand vous élisez mal les députés, vous mettez votre espoir en péril. Parce que...
Ok, merci beaucoup Laurent Mignon pour vraiment permettre à notre invité de conclure cet échange. On va écouter Amos qui est à Bukavu. C'est le dernier intervenant et on va revenir dans ce studio. Amos, bonjour, on vous écoute.
De prime abord, je tiens à saluer tous les auditrices et auditeurs de la radio de la paix, mais aussi l'invité présent au studio. Il est aberrant de constater que notre pays, la République démocratique du Congo, continue à être modèle dans la médiocrité, mais aussi dans des antivaleurs. Je doute fort qu'il y aurait un autre pays au monde qui a à peu près 1000 partis politiques. Au lieu que nos acteurs politiques créent des entreprises pour aider la jeunesse à trouver du boulot, ils se mettent à créer des partis politiques parce que ce sont des commerçants politiques. S'agissant de la question concernant le profil des futurs députés nationaux que nous allons devoir élire, à part les rôles reconnus à un député national, dont le rôle de représenter sa base, légiférer mais aussi contrôler l'exécutif et d'autres entreprises de l'État. À mon avis, je pense que les futurs députés nationaux devront répondre à 4 critères. Un, seront des patriotes, c'est-à-dire des gens qui aiment la patrie, qui sont attachés à la patrie et prêts à défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Deux, des députés qui font montre de la méritocratie, c'est-à-dire des députés à la hauteur de leurs tâches. Pas des gens, quand on dit qu'ils sont pour, qu'ils sont contre, qu'ils s'abstiennent, ils lèvent la main sans savoir de quoi s'agit-il ou pourquoi. Trois, des députés qui feront montrer de la bonne moralité, pas des immoraux, c'est-à-dire des députés qui seront en train de s'enivrer ou même poursuivre les femmes d'autrui dans la capitale, comme nous l'avons toujours appris. Quatre, en fait, des députés qui respectent et qui craignent Dieu, qui comprennent qu'ils représentent le peuple congolais et que tout Congolais a droit à la vie comme eux. Il y a des gens qui vont accepter de toucher plus de 21 000 dollars comme cela a fait débat dernièrement et qui acceptent que les institutions du pays consomment plus de 80% du budget national au moment où le social de la population laisse à désirer. Nous voulons vraiment des députés qui vont directement travailler sur la réduction du train de vie des institutions, car, dit-on, il a toujours été honté d'être RSL. Le contraire, je pense que le peuple congolais va continuer à regretter d'avoir élu des députés comme ceux-là que nous avons élus en 2006, en 2011, en 2018, qui n'ont pas travaillé pour le peuple, mais qui, une fois arrivés à l'Assemblée nationale, ils ont transformé l'Assemblée nationale en une caisse de résonance pour l'exécutif.
Merci beaucoup, Amos, mais la responsabilité de choisir ces personnes revient à vous, citoyens. Et on termine avec vous, Monsieur Floribert Anzuluni. On a suivi les uns et les autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? Mais c'est aussi dans les plans d'action de la campagne Congo-Tolingi.
Nous retenons qu'en termes de critères, il y a d'abord, premièrement, donc des critères de valeur, l'amour du pays, l'amour du prochain. Il y a également l'expertise, l'expérience, la capacité, la formation, ce qui revient à dire le parcours de cette personne. Quand on veut savoir ce qu'une personne est capable de faire, on analyse ce qu'elle a déjà fait, rajouter à cela les valeurs. Et puis, troisièmement, il y a une responsabilité citoyenne au niveau de nous, citoyens, qui devons faire des efforts pour comprendre le fonctionnement de l'État, le rôle de chaque acteur, de chaque animateur, ce que ces acteurs devraient faire pour nous une fois arrivés, entre guillemets, à des responsabilités, pour qu'en fait, dans l'étape suivante, nous soyons capables de les suivre, de les contrôler et de mettre en place des mécanismes de redévabilité. En tant que Congo Tolingi, nous nous entamons la deuxième phase de notre campagne, qui est une phase de conscientisation, de sensibilisation et d'appropriation du contrat social qui a été finalement publié, contrat social qui reprend également 20 engagements que nous voudrions voir les futurs acteurs prendre. Nous allons nous assurer qu'un maximum de Congolais s'approprie ce contrat et nous allons essayer de conscientiser, d'aider nos compatriotes à mieux comprendre le rôle des institutions, les rôles des futurs acteurs que nous allons désigner pour qu'ensemble nous nous assurions que ces acteurs vont être désignés non pas pour aller s'enrichir, mais pour résoudre nos problèmes qui sont extrêmement important aujourd'hui et à tous les niveaux. Ensuite, nous mettrons ensemble des mécanismes pour contrôler, une fois qu'ils sont désignés, nous assurer que ces engagements soient respectés. Et s'ils ne sont pas respectés, c'est nous en tant que citoyens qui avons la capacité et la force, le droit, le devoir même de ne plus le réélire et faire en sorte qu'il revienne et qu'il réoccupe de nouvelles charges publiques.
Et alors, dans l'organisation pour mettre en place des mécanismes de contrôle, et je crois que c'est là où la société civile devrait être assez forte pour pouvoir faire ce travail-là.
Elle doit être très forte. C'est le travail vraiment que nous allons, la deuxième phase où nous allons commencer, elle doit être extrêmement forte, mais cela nécessite que chaque Congolais, en tout cas un maximum de Congolais, s'approprie ce processus-là. Parce que comme nous le disons souvent, comme disent nos amis burkinabés du mouvement les citoyens, c'est notre nombre qui fera notre force, parce que n'oublions jamais, ces personnes qui ont des mandats politiques et publics ont ces mandats parce que nous, la majorité des citoyens, nous leur avons donné.
Merci beaucoup, Monsieur Floribert Anzuluni, d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Nous allons poursuivre les débats sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Merci à vous, Pierre.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Alain Goy qui a mis en onde ce magazine qui est Pierrot et la Meiji. J'ai eu le réel plaisir de vous présenter. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs.